Donc, on a proposé avec L214 une petite présentation sur la filière bovine plutôt française, comment elle est organisée, ce que vivent les bovins, qu'ils soient vaches, veaux, taureaux, etc. Et le dossier a été préparé à partir déjà du bouquin qui avait été réuni sur lesvaches.info. Par Florent, et puis avec Ken, Chico, et puis l'équipe qui a relu derrière. C'est un dossier qui est énorme en fait, bien plus que ce qu'on s'y attendait au départ. On savait que ce serait assez compliqué de trouver des données, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi complexe. Donc là, on vous donne déjà un premier, c'est au final un premier jet, il y a déjà beaucoup de données dedans, mais ça va être vraiment un survol, parce que c'est vraiment immense, et en fait, il faudrait s'attarder sur chaque maillon de cette filière qui est assez immense. Donc là, c'est vraiment une vue d'ensemble. Déjà, donc, ça va s'intéresser aux bovins qui ont été domestiqués il y a 6000 ans. Et il faut savoir qu'en fait, les vaches, les taureaux peuvent vivre entre 20 et 25 ans. On verra après, dans leurs conditions d'élevage, combien de temps elles vivent aujourd'hui dans les élevages. Ils ont gardé à peu près les mêmes comportements que leurs ancêtres sauvages, c'est-à-dire que ce sont des animaux grégaires, des animaux sociaux, ils ont une hiérarchie matriarcale. Il y a une meneuse qui n'est pas forcément la plus costaud, mais qui est la plus maligne. Et les troupeaux, c'est plutôt les vaches et les veaux, et les taureaux gravitent autour et ils sont là juste quand ils peuvent servir. Et les liens entre la vache et son veau sont des liens très très forts. On le verra aussi par la suite. Ce sont des mammifères, donc il y a la tétée, etc. Et c'est des liens qui se créent dès le départ, dès la naissance. Les troupeaux peuvent être assez grands, mais au-delà de 200 animaux, justement, le fait qu'il y ait une meneuse et le reste du troupeau, ça ne marche plus au-delà de 200 animaux, ce qui fait quand même des troupeaux assez importants. Il y a des petites questions de vocabulaire, mais qui seront sans importance après, mais c'est bien parce que, en fait, dans les médias, souvent on parle de vaches, génisses, taureaux, taurillons, bœufs, veaux. Par exemple, la majorité de la viande consommée, c'est de la viande de bœuf. En fait, la viande de bœuf, on se rend compte que c'est de la viande de vache, notamment des vaches de réforme de l'industrie laitière. Donc, les vaches, c'est des bovins femelles qui ont déjà vélé au moins une fois, donc ils ont déjà eu un veau une fois. Le premier vélage a lieu en général à l'âge de 3 ans pour une race à viande et 2 ans pour une race laitière. On verra après la division pourquoi elle s'est faite. Les génisses, c'est les bovins femelles mais qui n'ont pas encore vélé. Les taureaux, c'est ceux qui sont utilisés comme reproducteurs et les taurillons qui sont plus jeunes et qui en fait finissent à l'abattoir, ne serviront pas forcément à la reproduction. Les bœufs, ça peut être donc les bovins mâles castrés, engraissés pendant une durée plus longue et abattus en général vers 36 mois. Alors, mais sur la viande de bœuf, ça peut être aussi celle des vaches de réforme, qu'elles soient de race allaitante, donc de race à viande, ou de race laitière. Et les veaux, c'est ceux qui sont jusqu'à 8 mois. Sur les douleurs, il n'y a pas énormément de choses qui sont disponibles encore sur la douleur des bovins. C'est des recherches qui sont assez récentes et sur laquelle les scientifiques commencent à se pencher. Et en fait, elle est assez complexe parce qu'elle est assez invisible. C'est-à-dire qu'une vache, par exemple, qui va souffrir de la patte, enfin, il va falloir l'observer pour le voir. Elle ne va pas se mettre à meubler forcément, ou alors si elle se met à meubler, c'est vraiment qu'elle est arrivée à un niveau assez insupportable de douleur. Quand vous visitez du coup des élevages laitiers, quand on les remarque, elles se tiennent en appui sur trois pattes au lieu d'être bien stables sur leurs quatre pattes, mais il n'y aura pas forcément d'autres expressions de la douleur. Alors on peut le remarquer par des signes évidents, quand il y a une plaie ou une inflammation, que les membres enflent ou qu'il y a une lésion. Mais ça peut être aussi des signes très discrets, donc les changements de posture ou de comportement. Donc les postures de compensation, c'est justement quand elles vont éviter de se porter sur une des pattes qu'elles ont usées, parce que c'est souvent sur les pattes qu'il y a des problèmes. ou alors elles vont rester très longtemps debout ou très longtemps couchées. Les vaches, elles restent très rarement plus de 4 heures couchées. En fait, une vache allongée plus de 4 heures, ça veut dire que vraiment il y a un gros problème. Et c'est un signal d'alerte, une alerte très forte pour les éleveurs quand la vache ne se réveille pas. Ça peut être des grincements de dents, des mouvements de queue alors qu'il n'y a pas de mouche. Les boiteries, ça fait presque un signe évident, mais ça peut être assez discret parce que bah, la démarche d'une vache, c'est pas forcément fluide non plus. Les piétinements, les balancées, les troubles de l'alimentation ou d'hydratation, les meuglements, les coups de pied, les fuites et les manifestations de retrait. Alors, dans les lectures qu'on a pu faire, on a vu que l'emploi d'analgésiques était recommandé pour les écornages, qui sont reconnus comme extrêmement douloureux. Alors, ils sont recommandés, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément obligatoires. Pour les boiteries et toutes les situations douloureuses, ils considèrent que tout acte chirurgical est susceptible de donner de la douleur. Par exemple, pour les humains, les nourrissons, ce n'était pas reconnu forcément qu'il y avait douleur quand ils étaient, enfin, quelques années en arrière. On opérait à vif les nourrissons. Mais pour les vaches laitières, il y a quand même reconnu quand même que tout acte chirurgical, ça va être source de douleur pour elle, lui, souvent c'est une vache en lui. Alors, les chiffres, il y en a un paquet. La France, on se pose toujours la question, on a des difficultés aussi en France à parler de la question de mer. Sur les bovins aussi, la France, elle se place plutôt bien. L'Europe, c'est le premier pays producteur de lait, même devant les États-Unis. C'est le deuxième producteur de l'Union européenne pour la France et on est juste derrière l'Allemagne. La France, c'est le premier producteur de viande bovine et le premier exportateur de bovins vivants. Ça a repris de plus belle là depuis quelques mois vers la Turquie. La filière lait, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2009. Et c'est au deuxième rang derrière la viande. Et en fait, on n'a pas été fichu de trouver les chiffres. C'est 1 milliard d'euros la viande. Parce qu'ils donnent des chiffres hors subvention. Il donnait 6 milliards hors subvention. Enfin, si c'est après, ça voudrait dire qu'il y a plus de 25 milliards d'euros de subvention. Enfin, c'est bizarre, on n'a pas réussi à trouver des chiffres probants là-dessus. En France, il y a 19 millions de bovins. Alors, pour ceux qui ont à l'esprit déjà le nombre de bovins abattus, sont abattus en France 5 millions de bovins par an. Et en fait, le cheptel, c'est-à-dire à un instant T, le nombre de bovins qu'il y a dans les élevages, c'est 19 millions. Et ça se répartit avec 3,7 millions de vaches laitières, dont une majorité de prime Holstein, c'est d'elle qu'on va majoritairement parler, puisque c'est elle qui est la plus représentée. Les Montbéliardes et les Normandes, alors elles sont exploitées pour le lait, la crème, le fromage, le beurre, mais aussi pour la viande. Leurs veaux vont dans la filière viande, elles sont aussi dans la filière viande. Et puis vous avez 4,2 millions de vaches allaitantes. Elles, en fait, elles donnent naissance aux veaux qui serviront à la filière viande. Donc avec des charolaises représentées à 50%. Et là, vous les avez dans l'ordre. Parce que sinon, je ne l'avais pas. Prime Holstein, Montbéliard, Normande, Charolaise, Limousine et Blanc d'Aquitaine. Et elles sont exploitées. Alors, il y a des races de vaches qui sont mixtes, qui peuvent être utilisées soit comme race à viande, soit comme race à lait, mais c'est déterminé au début en fait, elles ne vont pas passer d'une à l'autre. Soit elles vont être allaitantes, soit on va prendre leur lait sans leur laisser le bourse. Alors, vache allaitante, parce que le veau va rester sous la mer jusque... Il y a donc 5 millions de bovins qui sont tués par an dans les abattoirs, 22 milliards de litres de lait collectés, et 42% de la production française de viande bovine provient des vaches laitières. C'est énorme. Alors, vaches laitières, un peu tout confondu, c'est-à-dire que ça peut être des veaux laitiers aussi. Il y a environ 200 000 exploitations avec des bovins, et à peu près 75 000 en exploitation laitière. En fait, il y a une diminution du nombre d'exploitations, notamment aussi une diminution du nombre de vaches laitières parce qu'elles font plus de lait par individu. Voilà. Et en moyenne, en France, une exploitation compte 92 bovins, et sur les exploitations laitières, c'est 50 vaches laitières. Mais quand il y a 50 vaches laitières, il y a ce qu'on appelle leur suite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir encore derrière une cinquantaine d'autres bovins, leurs petits, au fur et à mesure des entreprises, etc. Et le renouvellement, les génisses qui n'ont pas encore payé, qui sont prêtes pour pouvoir remplacer celles qui vont être écartées du troupeau, réformées, envoyées à la boucherie. Et on compte en France 289 abattoirs. Donc là, ça reprend un petit peu. En production, les 42% d'origine laitière et les 50% d'origine allaitante. Voilà, on voit la consommation au niveau de la France, c'est surtout les femelles qui sont consommées. Donc celles qui ont servi à faire de la reproduction toute leur vie. J'y viens sur les différences de troupeaux. Alors, comment les bovins sont consommés? Et après, je reviens sur les races, les tirs, les tentes, etc. Comment les bovins sont consommés? La consommation française moyenne de viande bovine, c'est 25 kg par habitant et par an. En Union européenne, c'est 16 kg par habitant et par an. On voit qu'en France, on est quand même parmi les pays les plus consommateurs. C'est à peu près 30% de la consommation totale de viande, mais c'est hors poisson. Donc, hors poisson, c'est vraiment tout ce qui est animaux terrestres. La France est le premier pays consommateur de viande bovine en Europe. Quand on entend les communications du centre d'information des viandes, on a l'impression qu'on n'en consomme quasiment pas. Et les steaks hachés représentent 30% des volumes commercialisés. Au niveau des organes internes qui servent, il y a la présure pour le fromage. Et le corps des animaux passe aussi en nourriture pour animaux. Donc la pisciculture, c'est-à-dire qu'on nourrit des poissons avec des restes de viande bovine. Les produits laitiers, c'est 60 kg par an et par habitant, de lait liquide et de fromage 24 kg par an et par habitant. Pour autant, si on regarde le graphique que vous voyez quasiment là, donc, moi je vois bien parce que je suis juste à côté, le lait liquide, ça représente à peu près 10% du lait consommé. Et en fait, c'est tout du lait transformé après, vous l'avez en lactosérum, vous l'avez bien entendu. En fromage, c'est la plus grosse part, mais après, c'est tous des laits qui sont conditionnés et ils s'en consomment finalement assez peu, entre guillemets, en liquide. Mais je vous ai mis en dessous combien il fallait, par exemple, pour faire du beurre, il faut 22 litres de lait, pour faire un sirop de montagne, il faut 12. Un litre de yaourt, c'est un litre de lait quand même. Les quantités de lait nécessaires pour transformer, pour la transformation, sont assez gigantesques, finalement. Ce qui explique pourquoi il y a une consommation seulement de 24 kg de fromage. Et si on l'avait laissé en unité de lait, ça représenterait bien plus. Comme autres produits qui sont issus de l'exploitation des vaches, des veaux, des taureaux, des bovins, il y a le cuir, qui est le sous-produit le plus rentable de la filière, avec 10 à 60% de la valeur de l'animal utilisé. Et il y a un cuir spécial qui est le vélin, qui est la peau de veau mort-né ou de veau tué très jeune. C'est toute chère. Les bovins représentent 64,8% du marché mondial du cuir. La France, c'est le premier pays producteur mondial de cuir de veau. On a vraiment un palmarès intéressant en France par rapport à ça. Par contre, 21e pays producteur de cuir, donc vraiment premier sur les veaux, mais sur le reste pas forcément. Et la vente et l'exportation de cuir est en augmentation, 28% de plus pour les peaux finies de veaux en 2010. C'est vraiment des chiffres qui sont assez énormes. Et alors, il y a d'autres utilisations qu'on retrouve dans les sous-produits. Le fiel, qui est utilisé dans l'industrie pharmaceutique et dans les savons. Le suif, pour la cuisson des frites. Le fiel, c'est issu du foie, c'est la mine, hein. Ouais. Le suif, c'est la base. Le sang, la corne, et les os, ça peut finir en engrais. La corne, c'est pour se faire des peignes et des manches de couteau. L'os, ça peut faire du charbon et du vin noir. Le sang, ça peut clarifier le vin. C'est pas obligé, mais ça peut.
Excuse-moi, je crois que c'était interdit depuis la période de la
Ben, a priori, enfin, d'après les chiffres, c'est encore utilisé. Après, c'est peut-être de plus en plus rare, mais c'est les farines animales. Et la gélatine, qu'on peut trouver dans pas mal de choses, en fait, c'est encore regarde un petit peu les étiquettes, y compris dans les glaces.
Ah, enfin, il y a déjà des produits laitiers.
Excuse-moi, à propos de l'os, ce n'est plus utilisé pour le sucre, hein, que j'ai entendu dire.
Non, là par contre, on ne l'a pas retrouvé pour le sucre, justement, on a cherché et a priori c'est fini, surtout depuis qu'ils sont passés au sucre de betterave, et du coup, voilà, c'est passé de mode.
Sucre de canne, si, par contre.
Sucre de canne, oui, mais pas pour celui qui parle. Apparemment, aux États-Unis, ils n'achetaient pas de sucre. Alors, il y a des réglementations qui limitent quand même ce qu'on peut faire subir aux animaux. En théorie, hein, c'est de la réglementation, donc ça, c'est le cadre légal. Après, en pratique, quand on se promène, des fois, on constate qu'il y a des écarts entre la réglementation et la pratique. Sur les bovins, c'est une convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Et une directive du Conseil, la 98-58, c'est qui sont une convention et une directive qui sont vraiment très générales. Genre, il faut leur donner à manger, il faut qu'ils soient bien logés. Enfin, vraiment des choses sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer quand on enquête dans les élevages, dans les abattoirs, etc. On ne peut pas s'appuyer sur ces directives-là parce qu'on n'a pas de point d'accroche. Ça ne dit pas une surface minimale, ça ne dit même pas des aménagements minimums. Enfin, c'est à l'appréciation de l'observateur. Les bovins, eux, il y a une recommandation du Conseil de l'Europe concernant les bovins qui date de 1988, et pareil, qui est assez floue dans ce qu'elle donne. Bon, il faut qu'ils soient bien traités, ce serait bien qu'ils puissent sortir dehors. Voilà, il y a c'est des devrais, mais il n'y a pas de contraintes sur lesquelles on peut s'appuyer forcément. Sur les veaux, par contre, il y a une directive du Conseil de la Commission européenne qui établit des normes minimales relatives à la protection des veaux, et là il y a des surfaces minimum, par exemple, où on verra au début de la vie des veaux, les veaux ne doivent plus être gardés, par exemple, à partir de 2007 dans des enclos tout seuls à partir de la vie. Sur les transports et les marchés, il y a un règlement donc directement applicable. Les directives, elles devraient être transposées. Enfin, je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais c'est suivant les textes. Les recommandations, c'est au niveau du Conseil de l'Europe, c'est théoriquement applicable directement dans les pays, mais souvent ça passe après par la Commission européenne qui transforme en directive ou en règlement. Les directives, ensuite, elles sont transposées en droit national, alors que les règlements s'appliquent directement. Ici, on a un règlement qui s'applique, on peut s'appuyer dessus directement pour porter les plaintes. Et les directives, quelquefois, quand elles sont transposées, on peut se rendre compte qu'il manque des articles, que ça a été traduit. Bizarrement, etc. Enfin, il y a eu quelques défauts sur les transpositions de directives. L'abattage, c'est aussi une directive qui se transforme en et sur la traçabilité, tous les bovins ont des boucles d'oreilles avec l'identification dessus. Et ça aussi, c'est réglementé, c'est sur la traçabilité, notamment depuis la vache folle. Alors, revenons à nos vaches à viande et vaches à lait. Pourquoi maintenant il y a des vaches à viande et des vaches à lait, sachant que 42% de la viande consommée en France, c'est de la viande issue en fait de races laitières. Mais il y a quand même eu sélection génétique à partir de 1965. En fait, ça a été un virage pour l'ensemble de l'élevage en France. C'est là où il a été décidé que la Bretagne, ce serait la région productrice des produits animaux français. Et c'est là qu'il y a eu ce virage. Avant, il n'y avait pas cette distinction forcément entre les vaches à viande et les vaches à lait. Et à partir de 1965, ça a été fait. Et il y a eu une forte sélection génétique sur des critères de production, soit pour faire plus de viande, de plus en plus de viande, soit pour faire de plus en plus de lait. Sauf que ces sélections génétiques, ça a été comme c'est le cas aussi pour les poules et les poulets, ça a été fait au détriment de la santé des animaux, et donc ça leur fait une sensibilité accrue sur des problèmes de santé. Alors on va voir après sur en fonction de, des races à vin, des races à lait, mais on peut faire le parallèle avec l'ensemble des animaux en fait, sur par exemple les poulets de chair qui ont été sélectionnés génétiquement pour faire de la chair et qui aujourd'hui en fait si vous réussissez à sortir des poulets de chair d'un élevage, des poulets de chair à croissance rapide, donc le nec plus ultra du poulet pour le faire pousser très rapidement, en fait, vous avez des poulets qui ne vont pas être viables. C'est-à-dire qu'au-delà de 45 jours, ils vont pourrir sur leurs pattes, ils auront fait une crise cardiaque, ou ils sont pas, c'est pas des poulets qui sont faits pour vivre, c'est des poulets qui sont juste faits pour faire du muscle, au détriment de leurs os, au détriment de leurs organes vitaux, comme le cœur ou le poulet.
Comment ils font pour les reproducteurs, ces poulets
faits ? Alors, les reproducteurs, en fait, ils sont affamés tout le temps. C'est des poulets qui donc, enfin ils sont pas dans les mêmes élevages de toute façon, c'est des poulets qui laissent justement affamés tout le temps pour les garder en vie. Donc c'est des animaux qui ont besoin, qui sont boulimiques, et ils les affament, ils les gardent pas très longtemps non plus. Mais en tout cas ils arrivent à les garder suffisamment pour qu'ils puissent se reproduire. Alors il y a de moins en moins de vaches à lait, mais elles produisent de plus en plus de lait. Et elles ont de plus en plus de problèmes de boiterie et de mamite. Mamite, c'est l'inflammation quand vous allaitez. Pour les femmes, on appelle ça simplement un peu plus la tranche. C'est l'infection des canaux et des mamelles. Quoi. Et pour les vaches à viande, c'est le gène Cular qui se développe, qui est surtout présent dans le nord de la France. Je ne sais plus si on a des autres de vaches. Mais vous en avez déjà peut-être vu, notamment au Salon de l'Agriculture, et puis pour ceux qui habitent dans le nord de la France, c'est des races, quand vous voyez les animaux, vous avez l'impression que c'est des bodybuilders. En fait, ils ont les muscles vraiment ultra développés, c'est assez impressionnant. Et je dois avoir des photos dans ton ordre. Voilà. Et en fait, les veaux, ils injectent des... Enfin, ils se débrouillent pour que des vaches qui ne sont pas culard portent des veaux qui ont le gène culard. Et en fait, ça se termine tout le temps par césarienne parce que c'est des veaux qui sont bien trop gros pour pouvoir sortir par des voies naturelles. Donc ça, c'est un petit schéma juste qui montre le nombre de vaches laitières qui diminue, mais leur production de lait qui augmente. Aujourd'hui... Ah oui, ça c'est la répartition géographique, on voit que c'est réparti un peu de façon différente. Ici vous avez les vaches laitières, qui sont très présentes en Bretagne, en Normandie, qui sont très présentes en Auvergne et puis dans la région Rhône-Alpes, par ici, pas mal, et en Alsace, alors que les vaches allaitantes, elles vont être plus présentes. Alors il y en a qui se recoupent, et puis on va le voir, en fait, on ne peut pas faire des généralités. Les exploitations, elles sont souvent mixtes. Ah, mais la répartition géographique est parfois assez différente.
Et puis ça risque de bouger encore dans le dernier mois.
Donc l'objectif que l'on a ici, ça va être d'exciter les taureaux de façon à récupérer
c'est comment on récupère les pour faire de l'insémination artificielle.
Qui est dans les testicules et qui va nous permettre de faire de la tranche pour le, avec laquelle on va inséminer les vaches. Donc il faut que l'on trouve la bonne alchimie, l'excitation du taureau avec un bœuf, et le fait que le taureau se sente en confiance par rapport aux personnes qui s'occupent de lui. Donc les bœufs, ce sont des animaux qui sont plus calmes que les taureaux. Et puis, les femelles, déjà, ont une capacité physique à absorber les membres des taureaux qui sont beaucoup plus faibles. Donc si on amenait une vachette ici ou une génisse, elle serait assez rapidement fatiguée de recevoir 600, 800 kilos, une tonne, deux, trois fois, quatre fois par matinée. Donc on préfère avoir des animaux qui sont plus robustes et donc on ne rentre pas de femelles. Alors si on ne rentre pas de femelles et qu'on ne veut pas que ce soit des taureaux, ce qui nous reste comme situation, c'est le taureau castré, ce qu'on appelle un bœuf. On a des collègues qui utilisent ce qu'on appelle des vaches mécaniques, c'est-à-dire au lieu d'avoir des bœufs, ce sont des montoirs métalliques avec une peau de vache dessus. Nous, on considère qu'on a des meilleurs résultats en restant avec des animaux. Donc ça va être un jeu relativement subtil, qu'on va repérer lorsque l'on fait tourner le bœuf et que le taureau suit, si le taureau il est vraiment intéressé par le bœuf, et on le sait assez rapidement, et s'il n'est pas intéressé par le bœuf, au bout de quelques minutes, ben on va faire intervenir un autre bœuf, d'une autre taille, d'une autre race. Il faut changer la mise en scène, en fait. Hein. On est tout simplement dans une histoire de rapports animaux et qui se termine par des rapports sexuels, et il faut mettre en scène ces rapports sexuels.
Le sperme.
En fait, l'insémination artificielle, comme dans pas mal de filières, elle s'est beaucoup développée. Et là, c'est justement comment ils prélèvent le sperme sur quelques taureaux. Il n'y en a pas énormément non plus. En fait, un taureau, il peut avoir 6 à 8 000 descendants. Parce qu'après, une fois qu'ils ont une dose, ils la séparent en plusieurs. On va voir comment ça se passe après pour les femmes, donc pour les femelles. Avec ça, justement, ils sélectionnent les taureaux, donc ils ont une sélection génétique accrue. Ils peuvent vraiment choisir les caractéristiques, justement, c'est pour ça qu'ils peuvent se développer aussi facilement des animaux qui sont entre guillemets performants, puisqu'ils sélectionnent vraiment des taureaux. Il y en a quelques-uns qui sont très très connus dans le monde de l'élevage parce qu'ils avaient des caractéristiques vraiment exceptionnelles de reproducteurs, etc. Pour les vaches, l'insémination, elle se passe de 7 semaines à 3 mois après le veulage. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont fait un petit, on les insémine de nouveau, alors soit assez rapidement, soit de façon plus étendue, mais en tout cas, elles ont environ un petit par an ou tous les 18 mois. Ils ont un meilleur rendement avec les inséminations artificielles. C'est-à-dire qu'ils opposent insémination artificielle et saline naturelle. Et en fait, avec l'insémination artificielle, les vaches tombent plus facilement enceintes et c'est moins cher.
Voilà.
9 mois. 9 mois. Et en ce moment, enfin ça existe déjà, les semences sexées. C'est-à-dire que les éleveurs achètent les semences et ils savent déjà si ça va être un mâle ou une femelle. Je voudrais un taureau, donc je voudrais des semences sexées masculines ou féminines. Et a priori, c'est pas très bien. Donc, sont inséminés artificiellement 85% des vaches en troupeau laitier sur 90% des exploitations et 15 à 20% des vaches en troupeau allaitant pour 33% des exploitations. Et il y a très peu de taureaux dans les manèges, comme on peut le voir. Ça, c'est l'insémination des vaches.
Donc là, en fait, nous passons le col de l'utérus, donc avec ce pistolet où la paillette de sperme est engainée. Donc le jeu consiste d'une main à prendre le col et de l'autre à tricoter un petit peu pour atteindre vraiment les cornes utérines. Donc la technique n'est pas du tout traumatisante pour l'animal. On voit bien qu'il ne bouge pas du tout.
Alors, le logement, comme appelé par les producteurs, hein, pour les canards à foie gras, par exemple, on parle de logement, on parle des cages individuelles. Il y a plusieurs types de logements qui peuvent coexister sur la même exploitation. Et on a souvent la sensation que quand il y a un accès à l'extérieur, c'est mieux pour les animaux. Ben, c'est pas toujours vrai. Ça dépend comment il est fait, cet accès à l'extérieur. Si les vaches, elles en ont la possibilité, on va surtout parler de vaches, parce qu'en fait, les taureaux, il y en a très peu. Si elles en ont la possibilité, elles alternent les moments où elles sont en bâtiment et en extérieur, et ça va dépendre des moments de la journée, ça va dépendre de s'il fait beau, s'il pleut, s'il fait trop chaud. Aujourd'hui, elles peuvent être sous des arbres, par exemple, ou elles peuvent être carrément à l'intérieur pour échapper à la chaleur. Dans certains textes, on trouve une surface minimale suffisante estimée par animal. Alors c'est 6 mètres carrés de levrette. Je vois si vous imaginez une vache, 6 mètres carrés, enfin, c'est pas énorme, hein, parce qu'une vache de l'avant à l'arrière, on peut faire à peu près 2 mètres. En largeur, c'est confortable aussi. Et donc 6 mètres carrés, vous n'avez pas... Elles ont quoi se rentrer dedans, mais enfin, elles n'ont pas de quoi faire une tour, c'est pas une surface très large. Et 4 mètres carrés d'air d'exercice. Petit pas. En stabulation libre et en logette, les vaches ont accès à la nourriture par les cornadis ou par les rails tubulaires. Donc c'est deux systèmes de nourriture différents. Le rail tubulaire, ils arrivent mieux à quantifier la ration prise par les vaches, alors que par les cornadis, souvent, ils sont essayés ou pas, ou même ils arrivent aussi à bloquer les cornadis de façon à ce que chaque vache ait sa ration. Alors le cornadis, c'est peut-être en photo après. c'est des tubes d'aluminium, elles passent la tête en fait, et tu peux le bloquer éventuellement derrière et elles peuvent plus ressortir la tête. Et ça expliquera aussi en partie les cornages qu'on verra après. Par rapport au logement, c'est déterminant pour prévenir les mammouths et les boiteries. Si vous avez un système de logette, dans le système de logette et sur sol en béton, c'est là où vous avez le plus de boiteries des vaches, donc le plus de souffrance possible. On a vu tout à l'heure que pour les douleurs des vaches, quand elles commençaient à boiter, c'est déjà qu'elles avaient déjà pas mal de souffrance. Et au niveau des sabots, on verra après aussi, c'est assez, ça peut être assez trash, en fait, ce qu'elles peuvent développer comme infection entre les sabots. Par rapport à la taille des élevages aujourd'hui, on a vu qu'il y avait à peu près 92 vaches en moyenne par élevage. Actuellement, il y a des projets en cours, notamment dans la Somme, un projet de 1000 vaches laitières dans une seule exploitation, dans un seul bâtiment, avec leur suite. Donc leur suite, c'est les 750 veaux qui naissent en suivant, qui doivent être soit des génisses, soit des mâles. Et c'est un projet contre lequel il y a une forte mobilisation pour se battre contre. Et pour l'instant, il n'y a pas de décision prise par le président. D'ailleurs, il fait partie, sans prendre de décision, il va être remplacé. Voilà, mais enfin, on arrive quand même à chaque fois dans les communications. En France, on dit toujours, nous, les vaches, elles sortent à l'extérieur. Quand vous allez sur une exploitation, vous pouvez avoir des vaches, effectivement, qui sont à l'extérieur, un troupeau allaitant à l'extérieur avec les broutards, c'est-à-dire les petits qui sont en train de téter leur mère. Vous avez sur la même exploitation des vaches laitières, où là, les petits ont été retirés à la mer dans les 24 heures, enfin déclinés en fait, ils le retirent. Et avec des vaches qui peuvent aller à l'extérieur, mais qui sont aussi beaucoup en intérieur. Il faut de toute façon qu'elles ne restent pas très loin des bâtiments, parce qu'il va falloir les traire deux fois par jour. Vous ne pouvez pas les envoyer à petit chemin, parce que de toute façon, ou alors il faut avoir une salle de tournante, et ça, on n'a pas vu encore. Voilà. Et vous avez tout ce qui est animaux à l'engraissement, donc les jeunes veaux des vaches laitières, ou les broutards après une éventualité ou des mois, qui sont engraissés, de façon à être menés à l'abattoir, soit à 8 mois, soit entre 12 et 24 mois.
Leur métier s'est considérablement modernisé. Mais on ne peut s'empêcher de penser que certaines innovations poussent peut-être un peu loin la notion du confort dont jouissent les braves vaches laitières. Dans cette usine à lait ultra-moderne, tout est automatisé, tout est pensé pour le bien-être des vaches afin de garantir leur rendement.
Si on veut un détail précis, on tape le nom d'animal et on a automatiquement tout son pédigré, tout ce qu'il a fait depuis un an, plein mois. Les courbes, toutes ces courbes de mastication. Et le but du jeu, c'est de, quand il y a un grand nombre d'animaux, c'est de détecter tout de suite le petit local qui ne va pas. Peut-être que l'ordinateur le voit avant nous.
les vaches n'ont même plus à mettre le mufle dehors pour voir le paysage.
Alors voilà, là il y a un petit moment où c'est que la météo est un petit peu plus favorable. On se permet de leur donner un petit peu une petite vue, vue sur le plan d'eau, vue sur la nature. Elles sont contentes, on les voit d'ailleurs qui regardent dehors. On voit les vaches qui regardent.
Bah, c'est un des types de logements et a priori c'est le type de logement quand même qui s'achemine dans le futur parce que c'est bien plus facile d'entretenir de cette façon-là, il n'y a pas d'air là, etc. C'est pratique. Voilà. Et ce que vous avez vu, c'est un robot de traite automatique, c'est-à-dire que les vaches, elles y vont toutes seules. Et après, la nourriture est donnée, enfin, c'est tout géré par un collier. Ils savent exactement quelle quantité elle a pris parce que c'est vraiment tout enregistré. Enfin, ce qu'il a montré enregistré dans l'ordinateur, c'est vraiment ça. Tous ne sont pas passés au robot automatique. Bon, là, il y en a qui n'ont pas du tout à faire ça.
J'aime pas ça.
Alors, on va commencer par les vaches allaitantes et les vaches à viande, parce qu'il y a peut-être un petit peu moins de choses à dire dessus. C'est aussi, donc, on a vu par insémination artificielle éventuellement, avec un veau par an. Et aussi une insémination artificielle, alors ça on l'a vu dans plusieurs endroits, avant la réforme. C'est-à-dire qu'en fait, ces vaches, elles partent à l'abattoir, elles sont enceintes. Pour pouvoir faire plus de... en fait, quand elles sont enceintes, enfin, comme toutes les femelles, on mange un peu plus. Et du coup, enfin, ça permet de gagner du poids, parce qu'elles sont payées au poids de carcasse. Il y a donc des césariennes pour les vaches ayant le gène pullard, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ce gène pullard qui développe, qui fait une hypertrophie des muscles. On a vu aussi dans les textes qu'on a survolés les castrations des vaches. Donc on parle de castration des veaux, mais on peut aussi parler de castration des vaches. Ils vont leur retirer des ovaires, ou couper les trous, de façon à, pareil, suppression des chaleurs, donc suppression de l'agressivité, et aussi avant... pour l'engraissement avant la réforme. Vous aurez le choix, sur les mutins-sens, sur les castrés. Voilà. Vous avez des élevages, ce qu'ils appellent en semi-plein air, c'est pas d'accès à l'extérieur, c'est celui qu'on vient de voir par exemple. La filière française de broutards, donc les broutards ce sont ces veaux qui restent sous la mer, donc c'est le cas pour les races allaitantes ou races à viande. Souvent ils sont exportés, notamment massivement vers l'Italie. 76% des importations en Italie. C'est des veaux qui viennent de France. Donc il y a une grosse filière là, avec pas mal de transports. Et puis ce que vous voyez sur cette génisse, en fait, c'est ce qu'on appelle un capson. C'est pour éviter qu'elles têtent les autres. Alors soit leur mère, quand elles restent avec leur mère dans les pieds, parce que souvent ils les gâtent. Alors pourquoi ils ne veulent pas qu'ils les têtent en fait au bout d'un moment? C'est parce que ça peut provoquer des mammites chez les autres. Parce que quand ils commencent à téter, ça ouvre les traillons. Les traillons, c'est le tuyau qui arrive au bas du pied. Hein. Et si ce traillon est ouvert, en fait, les bactéries peuvent rentrer plus facilement. Donc ça permet de sevrer très facilement. Parce qu'en fait, c'est pas lui ou elle qui aura plus envie de téter, c'est que l'autre va s'éloigner. Voilà. Et là, donc ça c'est le résultat d'une césarienne. Et là c'est le désinfectant qu'on va dessus. Voilà, donc en France, si vous écoutez la filière, il n'y a pas de modèle de production intensive hein, dans des parcs d'engraissement. Sauf que il y en a hein, quand même. C'est pas le modèle, justement c'est pas le modèle dominant en France, qui veut dire qu'il en existe. Mais ça existe, et puis en fait, la France, elle exporte ses broutards vers l'Italie, qui, eux, font de l'engraissement intensif. Donc, c'est pas moi, c'est les autres. Sur les vaches laitières, en fait, les vaches laitières, on peut les comparer à des sportifs de haut niveau. Leur dépense physique, c'est comparable à un sportif qui court 6 à 8 heures par jour. C'est énorme. Bon, ça explique après pourquoi elles sont bien creusées, hein, les sportifs. De haut niveau aussi, des fois ils sont bien creusés. Un veau, lui, il a besoin de 5 litres de lait à peu près par jour.
Donc si on fait le calcul, une vache, par exemple, ça devrait faire 1900 litres de lait. Aujourd'hui, avec sélection génétique, elles produisent entre 6 000 et 12 000 litres de lait sur 10 mois. Il y a 2 mois où elles ne produisent pas de lait, c'est les 2 mois avant le délage suivant. Donc elles sont enceintes jusqu'aux yeux et on arrête de prélever leur lait, on les tarit, c'est les vaches taries, 2 mois avant la mise bas. Donc c'est soit ça fait 12 000 litres de lait sur 10 mois, mais ça peut se prolonger si c'est tous les 18 mois qu'elles sont en écoute. Si on regarde au niveau de la productivité, justement, c'est progrès génétique, c'est évolution génétique, oui. La productivité des vaches laitières a triplé depuis 1950. Et elle produit jusqu'à 4 fois plus de lait qu'une vache allaitante des vaches laitières. Vraiment, c'est que les bras poussés sur ce truc-là. Et elle produit environ 10 fois leur poids en lait par an. Une vache fait 6-7 kg. Et donc, elle produit entre 6 000 et 12 000 de lait.
On est dans le bout de 10 mois, ils arrêtent de la traire, la vache.
Ils la tarissent, ouais.
Souvent, les éleveurs ils disent mais il faut bien les traire, elles le réclament, ça va se marquer là, ça va pas.
Oui, mais tu peux la tarir. Enfin, c'est comme toi, quand tu allaites pas. Mais quand tu allaites, si tu arrêtes de traire, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait progressivement au fait de tarir. Tu tires un peu moins de lait, du coup, tu stimules moins les sécrétions, et du coup, tu as de moins en moins de lait, plus ils ont. Ils leur font des trucs aussi pour la tarir, enfin c'est pareil,
et puis, les humaines. Quoi. Elles font déjà moins de lait avant qu'on ait décidé de tarir.
Oui, elles diminuent un peu. Voilà, mais on la relance par un nouveau veau. C'est la dépense physique en fait, ce que ça leur demande. Quand tu produis du lait, en fait tu puises sur tes propres réserves pour les mettre dans ton lait. Et c'est ton organisme tout entier est occupé à faire du lait. Et du coup, tu dépenses physiquement. Et en fait, c'est l'équivalent. Elles ont faim tout le temps. C'est la prochaine diapositive.
J'ai vu la tête.
Voilà. Et là, en fait, ça se dégrafe automatiquement. Quand il y a moins de pression, quand il y a moins de lait qui coule, ça se retire automatiquement. Et ensuite, ils mettent un produit sur l'épi pour éviter que ça s'infecte. Donc, c'est comme une fine couche de. C'est pas de plastique, mais ça fait une fine pellicule de façon à. Les treillons, en fait, ensuite se ferment en une demi-heure. Donc dans cette demi-heure-là, il pourrait y avoir des infections. Et du coup, il fait. Bon, ceci dit, les problèmes de mammite, ils sont assez importants. Donc elles sont fortement sujettes aux batteries mammites. Même en mangeant 8 heures par jour et en ruminant 8 heures, ce sont des vaches affamées en permanence. Et leur nourriture, c'est à base d'ensilage de maïs combiné à du soja supplémenté en acides aminés. Ça augmente le taux de protéines du lait. Et les vaches, notamment les primolstern, elles sont adaptées au zéro pâturage, sauf que ça fait des réformes qui sont précoces. Qu'est-ce qu'on appelle des réformes précoces? En fait, en moyenne, aujourd'hui, les vaches, elles sont réformées vers l'âge de 5 ans. Alors qu'une vache, on l'a vu, elle peut vivre jusqu'à 25 ans. Certains éleveurs, ils les gardent plus longtemps. Là, il y en a un qui nous a dit que sa vache la plus âgée, elle avait 12 ans. Mais si une vache ne tombe plus enceinte, par exemple, ou une production de lait qui est vraiment inférieure à ce qu'ils attendent, elle est réformée et puis on va passer de nouveau par une autre.
Voilà. Quand vous faites les marchés, en fait, vous tombez souvent sur des vaches qui sont réformées, et ce sont souvent des vaches qui sont malades ou dans un état physique assez pitoyable. En fait, qui ont du mal à se lever, etc. On verra les vaches couchées tout à l'heure. Pour les vaches laitières, donc en gros, il est séparé de la mère dans les 24 heures. 9% des veaux mâles deviennent des bœufs. 50% des génisses deviennent à leur tour laitières. Et les autres sont engraissés puis abattus. Alors, les veaux. Donc, pour avoir du lait, il faut avoir des petits. C'est valable pour tous les mammifères. Et les veaux, ça a été réglementé en 2008, qui établit donc des normes minimales de protection des veaux. Ils ont zéro contact avec leur mère, ça on l'a déjà dit. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'après le Hérode, les veaux en fait, étaient envoyés à l'abattoir quasiment à la naissance. Parce qu'il y avait trop de veaux. Il y avait une prime pour les envoyer immédiatement à l'abattoir. Tous les jeunes mâles étaient tués. Les veaux de vaches laitières sont plutôt élevés en batterie. Alors, en batterie, ça veut dire en cas individuel. Alors, c'est pour des raisons sanitaires. Parce qu'en fait, ils ont un fort taux de mortalité, notamment dans les premières heures qui suivent le délavement de l'armée au village. Et il y en a aussi beaucoup dans les premières heures. Ils leur donnent soit du lait en poudre, soit le lait qui prélève sur la vache qui vient de bêler. Ils leur donnent le lait juste derrière. Les cages sont obligatoirement, ça ne veut pas dire que c'est toujours fait, mais obligatoirement, c'est une obligation légale qu'elles soient ajourées, de façon à ce qu'ils puissent quand même voir de leurs congénères. Ils ne peuvent pas être complètement isolés des autres. Et il y a des surfaces minimum, c'est 1,1 fois la longueur du veau. Et la largeur minimum égale au gabarit du veau. La litière est facultative. C'est-à-dire que vous prenez le veau, vous êtes juste un petit peu devant, juste un petit peu derrière, vous pouvez monter des murs tout autour. À partir du moment où vous laissez un petit jour, vous êtes dans le... Là, c'est plus grand que ce qui est légalement demandé. Il a de la litière, donc ce n'est pas une obligation légale.
Je crois que c'est interdit d'élevage en batterie depuis quelques temps et que désormais, le veau devait être dans des parcs à 2, 3,
jusqu'à 8 semaines, tu as encore le droit de faire. Et après 8 semaines, justement, parce qu'avant, ils les gardaient justement, ils avaient la possibilité de les garder jusqu'à les envoyer à l'abattoir, donc jusqu'à 8 mois. Maintenant, à partir de 8 semaines, ils doivent les mettre en collectif.
Voilà. Un avantage à les mettre en individuel et c'est pas collectif, c'est qu'ils ne vont pas marcher, donc tu as une plus grosse production de monde.
Oui, mais enfin, avec les densités dans lesquelles ils étaient.
Oui, mais comme ils peuvent quand même se déplacer, ils ont
la même. Oui, mais là aussi, un tout petit peu.
C'est vraiment.
Ouais. De les engraisser rapidement. Oui. Mmh. Ils sont nourris au seau ou à la tétine. Et les taux de fer sont maintenus très bas. Alors, on n'a pas trouvé les taux de fer minimum qu'il faudrait pour un veau pour être en bonne santé. Il y a une recommandation, il y a une obligation de leur donner 4,5. Il y a une obligation légale minimum. Mais en fait, elle est très très basse. Parce que en France, les gens ils mangent de la viande de veau blanche. En fait. C'est vraiment de la viande de veau qui ont été carencée en fer. Donc ils disent manger du fer, mais de rien.
Sur les histoires sur le veau de chute aussi.
Ouais.
On essaye de peut-être pour le fer, parce que le chute pour les histoires du poids qui peut amener du fer.
Non, il n'y a pas que ça aussi, mais il y a aussi par rapport à la masse musculaire et tout ça. Enfin, bon, c'est vraiment tout calculé pour que ça fasse effectivement la viande qui est attendue. Et je n'ai pas tous les détails.
Il faut que ça leur fait des gros problèmes intestinaux, parce qu'à partir d'un certain âge, ils vont donner plus
de... Oui, voilà. Et il y a beaucoup de veaux qui meurent de la diarrhée.
qui est provoqué justement par une nourriture qui ne leur convient pas. Alors ça peut être soit au changement de nourriture, etc. Mais voilà. Et donc les cases collectives après pour un maximum de 10 animaux.
Ils mettent énormément de graisse dans la bouffe et beaucoup de sel. Et il y en a bien d'autres à voir. Donc en fait, c'est un effet de liquide très salé et très gras et très nourrissant. Donc en fait, comme ils ont soif, ils boivent ce truc. Comme c'est salé, ils ont encore soif, donc ils en boivent encore. Et c'est comme ça qu'ils grossissent et qu'ils deviennent énormes. Je ne sais pas si c'est encore le cas.
Ça, on va dire. Non, pas du tout. Non, et puis là, on va citer aussi. C'est du semi de la bouffe de Perpignan.
S'il ne faut pas qu'il boive, parce que sinon l'eau prend la place dans l'estomac, et il faut que cette place soit prise par la nourriture.
Ah ben ça c'est sûr que c'est réglementé, enfin ceux qu'on a vu, ils n'avaient pas d'eau à disposition. Mais après c'est souvent quand même de l'aliment solide, à partir d'un certain temps, enfin ceux qu'on a vu qui étaient entre 18 et 24 mois, ils avaient de l'aliment devant eux, et ceux qui étaient dans les cases, soit ils avaient du lait, les trois premiers, mais c'est pas tout le monde en même temps, c'est pas synchronisé forcément pour les naissances et tout ça. Et ceux d'en face, ils avaient déjà de l'alimentation solide et ils avaient un mois. Donc, Et j'imagine que autant vous allez croiser aussi d'élevage, autant vous allez croiser de pratique. Donc c'est vraiment compliqué, enfin vraiment on a trouvé ce dossier. Vraiment compliqué pour en tirer des généralités, c'est vraiment pas facile. On a calculé d'après les temps de travail qu'un éleveur il avait à peu près à consacrer 1 minute 35 par veau et par jour.
Une minute ?
En moyenne, 1 minute 35.
Mais là tu parles d'un élevage laitier qui ouais. C'est beau là, tu parles pas d'un élevage que de l'eau.
Alors là, c'est le sevrage qui était passé sur France 3.
Ce jeune veau est né pendant la nuit.
Bah, y en a qui l'ont pas vu.
Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère. Ben, la mer, non.
La mer, non.
Non.
Ah, ouais, parce que moi, c'est ce que j'ai à côté de chez moi, c'est des races à viande. Pendant 4-5 jours, elle a fait des vieux. Mais le veau est plus vieux. Il a quelques mois quand il part, on dit qu'il part pas du tout. Voilà. Donc, il est déjà plus vieux pour un restaurant. En vrai, c'est entre 3 et 5 jours d'être fait une bonne expérience du
voilà, donc. Donc c'est pas le seul malheur qui arrive pour les hommes. Les mâles en principe, alors pas tous, mais il existe encore beaucoup de castration. C'est reconnu comme source de douleur pour, même pour les veaux. C'est légal sans anesthésie jusqu'à 45 jours. Mais sans anesthésie, c'est quand même reconnu comme cruel, au contraire aux pratiques reconnues en matière de bien-être animal. Voilà. Et en fait, il n'y a rien qui prouve que les veaux moins âgés souffrent moins que les veaux plus âgés, sauf que c'est plus facile de les tenir quand ils sont plus petits. Voilà, donc les objectifs en système herbagé, c'est pour pouvoir élever conjointement des génisses et des bœufs. Ça diminue l'agressivité et l'activité sexuelle, ça augmente la docilité du coup, et c'est la production d'une longue grâce. Donc à quel âge ça peut se pratiquer dès la naissance, mais en tout cas c'est à peu près une semaine. Tous ne le pratiquent pas. Alors il y a plusieurs méthodes, soit l'anneau de caoutchouc, mais c'est interdit pour cruauté, notamment dans la dans les conventions, dans la charte bio et dans plusieurs pays européens. L'anneau de caoutchouc, c'est un anneau que vous passez autour des bourses et en fait ça coupe la circulation sanguine. Du coup, les bourses, les testicules se nécrosent. La pince Burbizo, en fait, c'est l'écrasement des cordons supermanifiques. Donc là, vous allez aller chercher le canal et vous allez écrabouiller plusieurs fois le canal. Mais il y a un taux d'échec plus élevé. Et la castration chirurgicale, là, vous pouvez mettre un bourse pour tirer des testicules. Voilà, et c'est une opération, il y a un risque d'infection. C'est une opération. Et donc, bah, avec ou sans anesthésie.
C'est pas possible de couper le canal de l'écran pour le faire avec tout le monde.
Bah écoute, a priori, c'est pas pratique.
Tu as
vu
l'expérience.
Ce serait, oui, ce serait.
Mais c'est ce qu'ils font, enfin, c'est ce qu'ils font avec la pince de l'œil, ils écrasent. Ça... Alors, l'autre chose qu'ils subissent aussi très rapidement, c'est l'écornage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos, j'aurais pu le faire remarquer, c'est que la plupart des vaches que vous avez vues, elles n'ont pas de cornes. Alors, il y a des souches maintenant génétiques où c'est prévu qu'elles n'aient pas de cornes. Mais il y en a encore beaucoup qui naissent avec des cornes qui peuvent se développer potentiellement. Et en fait, 50% des génisses sont écornées, donc celles qui sont destinées à la reproduction. Les Holstein n'ont généralement plus de cornes, il en reste encore finalement. Et il y a des troupeaux allaitants qui vivent en extérieur qui ne sont pas forcément écornés, notamment si les ovras, les salaires, ça donne toujours leur corne. Alors, l'objectif, c'est la sécurité des humains. La sécurité dans les cornabis, donc on a peut-être vu dans les images, mais justement pour pouvoir passer la tête, parce que sinon il peut effectivement y avoir des arrachages de morceaux de cornes qui sont très douloureux. Hein. Et pour la sécurité entre bovins, parce que quand vous avez une forte promiscuité, il y a plus de chances qu'ils puissent s'écorner les uns les autres, et notamment aussi sur les vaches qui sont enceintes, des cornes qui peuvent provoquer des délages précoces. Donc la méthode, c'est de couper l'alimentation des veines périphériques en dessous de 4 semaines, donc pareil, anesthésie non obligatoire. Ça peut être par cautérisation thermique, donc on chauffe, c'est des fers ou d'autres appareils qui chauffent jusqu'à 700 degrés, qui vont brûler la naissance des corps. Ou alors une cautérisation chimique, c'est de la soude caustique, mais qui est désormais déconseillé, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des éleveurs qui se sont fait blesser par ça, parce qu'ils sont brûlés, et puis parce que si ce sont des veaux, par exemple, qui vont sous la mer, ils arrivent avec leur soupe là, ils vont têter, et en fait, ils doivent toucher la mer, et du coup, ça peut brûler aussi des parties qu'ils n'auraient pas souhaité brûler.
C'est
parce que
les corps ne sont pas encore des veaux?
Non, c'est juste à la naissance, ouais. Dès que ça apparaît, du coup, ils vont, donc c'est assez précoce dans la vie des animaux. Et à l'âge adulte, c'est une écornostomatique et l'anesthésie locale est obligatoire.
C'est comme une commune climatique, c'est ça?
Ouais.
Et les fermes aussi,
avec la pince. Mais il y a aussi ça.
Le sang, j'ai un lac.
Ça dépend jusqu'où tu vas. Ça dépend si tu fais un écornage juste au bout ou si tu vas.
Ouais, c'est un écornage aussi.
Bah on, verra, on va voir sur les marchés justement une blessure. Alors voici une vache laitière à la réforme. Donc les mammites. Hein. Les mammites, c'est inflammation des pies. Je ne sais pas si on l'a mis après, mais ça peut être. Si je crois qu'on l'a mis après. C'est la première cause de maladie chez les vaches laitières. C'est des infections bactérielles qui peuvent être contagieuses. Ou provenir de l'environnement, c'est-à-dire que si vous les laissez dans des endroits qui sont sales, elles ont plus de chances de faire des mammites, évidemment, que si l'endroit où elles sont est propre. Mais ça peut être aussi des bactéries qui sont contagieuses. Et le deuxième problème de maladie chez les vaches laitières, c'est les problèmes de reproduction, et du coup qui explique le fort taux de réforme vers l'âge de 5 ans. Et les veaux, j'ai dit tout à l'heure, affectés par les diarrhées, avec pas mal de mortalité. Les veaux, il y a 10% de mortalité sur les premières semaines de vie.
La boiterie, c'est la troisième cause de maladie. Enfin, c'est identifié comme cause de maladie. Hein. Et cause multiple, abcès, fourbure, fourchée, dermatite, ulcère. La boiterie, elle peut être évitée ou diminuée par le déplacement. Et ils ont remarqué que si les vaches allaient au pâturage, elles avaient moins de boiterie. Mais il y a aussi plein d'autres maladies. Alors oui, là pour les boiteries, en fait, on voit la différence entre un sabot qui n'a pas été paré, et là en fait, il est nettoyé. Mais avant, enfin, je ne sais pas si vous voyez, c'est reformé comme ça, donc branché, c'est extrêmement bien. Et ça, en fait. C'est ce qu'on appelle le parage. Si vous ne le faites pas régulièrement, la corne se développe et ça peut provoquer justement des abcès. En fait, ça ne se fait pas de façon naturelle. Quoi. Il faut passer pour entretenir parce que justement, elle ne marche pas assez, juste comme ça, notamment quand elle reste à l'intérieur. Il n'y a pas de quoi se faire la salle. Vous pouvez parler pour les chiens. Le phénomène des vaches couchées, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, les vaches elles restent pas couchées forcément, même quand c'est la nuit, elles se couchent, elles se relèvent, elles se couchent, elles se relèvent, elles ruminent, enfin il se passe plein de choses. Hein. Et si elles restent couchées plus de 3 ou 4 heures, notamment après le veulage, eh bien, ou si elles ont une alimentation carencée, c'est un signe de maladie. Si on n'arrive pas à les relever, en fait, plus une vache reste couchée longtemps, moins il y a de chances qu'elle se relève après. Et leur transport est interdit. Elles doivent en théorie être euthanasiées sur place. Ça, c'est la théorie. Et quand vous suivez, quand vous allez dans les abattoirs, etc., vous constatez qu'il y a vraiment des vaches qui ne peuvent pas sortir toutes seules des camions. Moi, je n'ai jamais vu charger un camion, mais déjà un moment, elles ne sait pas. Et on peut les trouver pour tirer par des trains pour les décharger. Et traîner sur un véhicule, quoi. Eh bien, ça dépend si tu es là en tant qu'observateur ou pas. Mais normalement, c'est étourdissement matador, pistolet à tige perforante. Et puis, après, il est suspendu, mais il n'y a pas forcément de. Mais. Oui, de toute façon, hein, parce que c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer qu'elles ne sont pas bonnes à manger.
Elles n'ont pas le bon goût.
Si. Enfin, c'est pas parce que tu as une patte cassée. Non, elles passent. Alors, par contre, quand elles sont à l'abattoir, elles peuvent passer en dernier dans le circuit d'abattage, justement, parce qu'il peut y avoir justement plus de doutes. Par rapport, alors normalement il y a une inspection ante-mortem et une inspection post-mortem. Donc voilà, mais elles peuvent passer très bien dans le circuit normal entre guillemets. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent à l'abattoir d'ailleurs. Parce que sinon, effectivement, une euthanasie sur place aurait pu le faire. Quoi. Mais les envois quand même à l'abattoir, des fois que
Sur place, on n'en a même jamais vu. Théoriquement, tu peux venir en vétérinaire, c'est une alternative. En Allemagne, ils ont un système d'abattoir ambulant où c'est un camion qui vient et il tue les vaches même au pré. Voilà, pareil avec étourdissement.
Mais en France, il n'y en a pas, enfin, on n'en a jamais croisé.
Les foires et les marchés, rapidement, parce qu'il y en a de moins en moins, il en reste encore des très très grands. Donc où s'échangent les animaux, soit avant d'aller à l'abattoir, donc là on va retrouver des vaches de réforme, soit des veaux en partance pour l'Italie, pour aller se faire ramasser ailleurs, soit juste avant l'abattage aussi pour les veaux, ou alors les veaux, certains éleveurs ont les veaux des vaches laitières qui naissent, mais ils ne les engraissent pas forcément sur place, donc quelques semaines, ils les vendent. Et c'est d'autres qui vont les engraisser pour ensuite les vendre aux abattoirs. Les foires et marchés réglementés par le règlement CE 1.5. Et on peut relever certaines violations à ce règlement. L'utilisation de bidouillons électriques répétés ou sur des parties non autorisées, parce que normalement c'est juste sur la croupe. Et c'est une fois, et si l'animal a l'accès dégagé, c'est assez encadré en théorie. Il peut y avoir des animaux qui sont frappés ou recevant des coups de pied. Il peut y avoir des animaux soulevés ou traînés par la tête, les oreilles, les pattes, les cornes ou la queue. Souvent, on constate l'absence d'eau. Et il y a aussi des systèmes d'attache qui ne leur permettent pas de se coucher ou de se nourrir ou de s'abreuver, c'est-à-dire qu'ils sont tenus vraiment courts par rapport au poteau. Et ça, c'est interdit. Et là, si vous voyez cette vache, en fait, donc elle a sa corne, vous voyez, on le voit bien. Elle est dans son côté. Les transports, ceux de moins de 50 km ne sont pas réglementés par le même règlement européen. Et on peut constater des violations souvent. C'est la hauteur de plafond. La hauteur de plafond, souvent, c'est juste au-dessus de la. Quand les vaches sont debout, c'est juste au-dessus de la tête, alors que normalement, il devrait y avoir un espace supplémentaire. Notamment pour tout sur les veaux. Ça peut être absence ou défaillance du système de ventilation avec des températures jusqu'à 50 degrés à l'intérieur, alors que le règlement dit que la température doit être au maximum à 30 avec une tolérance de plus ou moins 5 degrés. Ça peut être le manque d'eau, ça peut être le non-respect des temps d'arrêt et de pause. Quand vous transportez des animaux, si c'est des veaux, ils doivent être transportés, enfin ils n'ont pas le droit d'être transportés plus de 9 heures, une interruption d'une heure, de nouveau 9 heures, déchargement de 24 heures. Et vous suivez un camion rempli d'eau, notamment le bouclier de Berlin, quand ils sont débarqués à Cherbourg, si vous les suivez, en fait ils ne font pas d'arrêt. Alors que normalement justement ils doivent s'arrêter 24 heures puisqu'ils ont une heure de transport. Il y a des non-respects de densité avec des animaux qui sont beaucoup plus nombreux que ce qui serait autorisé. Et puis, des transports de bovins non ambulatoires, donc c'est ceux qui ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes. Soit des vaches couchées, soit des vaches qui sont gravides, c'est-à-dire qui sont à plus de 80% du moment de transport. C'est-à-dire à 60 mètres bas. Dans ces violations les plus couramment relevées, c'est relevé par les associations de protection animale qui suivent des transports. C'est relevé aussi par l'Office alimentaire vétérinaire européen. Et pour autant, la France ne s'est toujours pas dotée d'un système dissuasif proportionné ou effectif. Par exemple, une amende une infraction en France peut être sanctionnée d'une amende de 90 euros si ce même transport est arrêté dans un autre pays, notamment en Italie. Il va prendre 5000 euros d'amende. 90 euros d'amende, ça vaut beaucoup de transgresser, parce que ça me coûte moins cher. Comme vous déchargez dans un poste de contrôle les veaux, justement, pour les faire arrêter 24 heures, déjà vous perdez 24 heures, il faut leur donner à manger, etc. Enfin, vous perdez beaucoup plus que 90 euros. Voilà, puis même si vous mettez un coup. Et en ce moment, il y a le groupement pour l'export français de viande, de bétail et génétique, ça a été lancé en 2011, pour soutenir le développement des exportations. Et en ce moment, il y a beaucoup d'exportations de bovins vers la Turquie. C'était des exportations qui s'étaient arrêtées et qui reprennent de plus belle. Là maintenant, ça avait arrêté suite à la vache folle. Il y avait eu des tas de trucs là-dessus. Bon, mais après avoir été transporté, il y a encore un abattoir. Donc l'abattoir aussi réglementé par un règlement européen maintenant, qui date de 2009. À l'arrivée à l'abattoir, donc les animaux sont déchargés, placés dans la boucherie, où ils peuvent rester plusieurs heures. En principe, il y a un couloir qui les conduit jusqu'à l'abattage. Des choses qu'on peut observer de façon commune, quel que soit le type d'abattage qui est ensuite pratiqué, c'est la panique, la peur et la terreur des animaux. On constate aussi en post-mortem que 97% des carcasses de gros bovins présentent des meurtrissures. Donc, meurtrissures, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils ont été blessés, que ce soit dans la ferme avant, que ce soit pendant le transport ou que ce soit à l'abattoir. Il y a des meurtrissures, alors c'est pas juste les émerveillements, les meurtrissures, c'est quand même pas juste un petit bleu. On peut observer aussi l'utilisation des lumières électriques. On peut, pareil que sur les marchés, des animaux frappés, des animaux soulevés ou traînés. Et il y a un phénomène qui se produit justement au moment de la saignée, c'est la création de faux anévrismes. Et ça, on l'observe quel que soit le mode d'abattage aussi. C'est-à-dire que c'est les caillots de sang qui se forment et qui empêchent l'écoulement du sang et qui retardent d'autant plus la mort de l'animal. Et c'est constaté chez 16% des bovins adultes et 25% chez les bovins. Et donc ça prolonge la saignée, ça retarde l'animal.
Il y avait quelqu'un qui disait lors de cette semaine qu'il y avait des ânes qui apportaient des sabots qui passaient au-dessus de.
Oui, qui passent le long de la mort. Et celles-ci ne sont pas sectionnées en principe, sauf peut-être en abattage indien, c'est un bon moment.
C'est des mains ou des artères?
C'est des artères, d'accord. Voilà, et les pertes de conscience dans les études qui ont été faites montrent que les bovins peuvent perdre. C'est très variable en fonction des animaux, ça peut aller de 8 secondes jusqu'à 14 minutes. Donc après, il existe deux systèmes d'abattage légaux. Il y a l'abattage standard et l'abattage rituel avec étourdissement. Donc ce que je donne là, c'est la législation.
Selon les 14 minutes, parce que quand je regarde les vidéos, on a l'impression que le processus qui suit l'étourdissement, c'est saigné, et puis très rapidement, tu arrives à sectionner les membres et tout, donc ils continuent à être vivants à ce moment-là.
Ben, il pourrait qu'il y en ait qui peuvent arriver à ce moment-là. Donc en abattage standard, les bovins vivent dans un piège à contention. Piège à contention, c'est juste un petit couloir, ça se ferme derrière, ça se ferme devant, donc il n'y a plus de moyen de s'échapper. L'étourdissement est pratiqué souvent avec un pistolet à tige perforante ou à percussion. Ça peut être aussi des électronarcoses, mais moi j'en ai encore jamais vu. Et le jonchage est interdit suite à l'ESB, puisque auparavant, les animaux étaient donc étourdis, ça fait un coup. Et ensuite, il venait avec une tige métallique, finir de broyer le cerveau. En fait. Et ça, c'est interdit depuis l'ESB, puisque du coup, il passait par stopper les réflexes qu'ils peuvent avoir en abattant un effort de les débattre. Les mouvements réflexes, il peut y avoir des mouvements réflexes. Et ensuite, ils sont suspendus, ils sont encore vivants, ils sont assommés, mais ils sont vivants. Ils sont inconscients. Et suspendu par une patte. Et ensuite, il y a la saignée qui se fait, donc c'est des entailles, des carotides qui se font au couteau. Et puis après, ça attaque tout le habillage, tout le démembrement des animaux. Des coupages en petits morceaux. Les violations les plus couramment relevées sont des étourdissements mal effectués, des suspensions et des saignées des animaux, donc conscients, puisque les étourdissements étaient mal effectués. Le taux d'échec de l'étourdissement par pistolet, ça va de 6 à 16% chez les bovins. Pas négligeable. Il peut aussi y avoir un laps de temps trop long entre l'étourdissement et la saignée, c'est-à-dire que vous avez des animaux qui sont suspendus, et en fait celui qui est appelé le saigneur, donc celui qui pratique la saignée, il fait fait d'autres choses en même temps, il ne vient pas les soigner tout de suite. Et on peut parfois revoir des prises de conscience, des reprises de conscience avec des animaux qui cherchent à relever la tête. Et ce n'est pas du tout la même chose que les mouvements réflexes. Les mouvements réflexes sont saccadés. Et pour les reprises de conscience, vous avez les mouvements des yeux et vous avez des tentatives de relever la tête. Et puis, qu'on voit aussi assez fréquemment, c'est des couteaux mal aiguisés.
Et donc là, ça cisaille. Enfin. Voilà. Ensuite, il y a la bataille.
J'ai juste une question. Pourquoi la tête de
Alors parce que en fait vous avez.
Non, mais c'est pas une balle.
Bah, c'est un petit peu ça, c'est une balle qui fait dans le cerveau, mais du coup le cœur continue de battre et on les saigne, mais c'est pas juste. C'est pour faire évacuer le sang. Ils ont besoin du cœur qui est la pompe, qui continue de pomper pour pouvoir évacuer tout le sang.
C'est
la perte du sang qui entraîne la mort finalement. C'est pas l'étourdissement. Voilà, c'est ça pour garder la pompe. Ensuite, il y a l'abattage rituel sans étourdissement. Pareil, suivant la législation, les animaux rentrent dans un tonneau à contention. Souvent, le tonneau bascule, retourne l'animal, il y a une montonnière qui se place, qui présente le coup au seigneur, qui est un seigneur, comment on dit, habilité à l'abattage, soit par des mosquées, soit par... il y a soit le rituel cachère, soit le rituel musulman. Donc l'animal est retourné, le coup présenté et l'égorgement doit intervenir rapidement et l'animal doit être maintenu dans cette position jusqu'à ce qu'il soit mort. Et ensuite ils sont suspendus par une patte et c'est parti pour le démembrement après. Les violations les plus couramment relevées sont des couteaux mal aiguisés, donc avec cisaillement, et l'ouverture du tonneau et de la suspension avant la mort. C'est-à-dire que le plus souvent ce qu'on a observé, c'est que les animaux sont retournés, ils sont saignés, et tout après ils sont lâchés pour être suspendus. Et ça, c'est pas uniquement les associations de protection animale non plus qui l'ont constaté, c'est aussi constaté par les vétérinaires européens, puisque les cadences, théoriquement, si on attend la mort de l'animal, on a vu que ça peut aller de 8 secondes jusqu'à 14 minutes, la moyenne est à environ 2 minutes. Donc normalement, la cadence d'abattage, elle est bien moindre qu'en abattage standard, où là, ils peuvent y aller, puisque surtout après l'assommage, ils peuvent saigner pour continuer le démembrement des animaux. Et en fait, les cadences en abattage rituel ne diminuent pas dans la pratique, ne diminuent pas, et donc ça veut dire que les animaux sont suspendus alors qu'ils ne sont pas morts. Les faux anévrismes sont relevés chez 17 à 18% des animaux, mais là, c'était pas précisé si c'était bovin, poulet, etc. Donc j'ai mis le chiffre quand même, c'est les faux anévrismes, ça veut dire que vous prolongez d'autant la saignée et donc le moment où l'animal va mourir. Quoi. Les chiffres, ils sont assez variables en fonction des sources, mais il semblerait que 40% des bovins adultes et 26% des veaux sont abattus selon un rite. Donc soit un rite halal, soit un rite cachère. Il y a la Fédération des vétérinaires d'Europe en 2006 qui s'est prononcée contre l'abattage sans étourdissement. Voilà. Bon, il n'y a pas que, hein, mais là, du coup, c'est une fédération de vétérinaires. On peut penser qu'ils ont un avis qui devrait porter plus que d'autres. Pourquoi on ne porte pas forcément. Pour appuyer tout ce qu'on vient de dire, il y a l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui confirme qu'il y a beaucoup de problèmes de bien-être animal dans la production de lait. Pour autant, ça reste quand même une production qui est massivement utilisée, enfin, il y a des bonnes changements par rapport à tout ça. Et il y a l'INRA qui, dans son expertise collective, pourtant l'INRA. Toutes les étapes du départ de l'élevage jusqu'à la saignée sont potentiellement source de douleur. Bon, là aussi, c'est potentiellement source de douleur. Enfin, c'est pas comme pour le foie gras, ils ont dit que. C'est quand même rien dire.
On peut faire une pause peut-être si vous voulez. Il n'y en a plus pour très longtemps, mais.
Allez dans la foulée. Tu veux faire une pause, Hélène ?
Non, non, je suis là.
Ok.
Ça, j'en
ai
bien longtemps.
Ok.
Mais pas d'attendre.
Ça, pas non, qu'on en finisse. La filière, elle est organisée souvent en interprofession. Donc il y en a plusieurs. Je ne vais pas toutes les présenter parce que sinon il nous faut encore une semaine. Mais il y a notamment les plus importantes qui sont l'Interbev. L'Interbev, c'est l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, qui a été fondée en 1979. Elle regroupe 13 organisations, dont donc des éleveurs, des abatteurs. Donc son rôle, c'est écrit hein, sur leur site, je n'ai rien fait d'original, c'est sur leur site, son rôle, c'est de défendre et valoriser les intérêts communs de l'élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de la filière. Elle défend plusieurs secteurs, en fait, elle ne défend pas que les bovins, elle a aussi les ovins et les équins, donc chevaux et les moutons. Et leur force, ça vient qu'ils ont cotisation, enfin en fait chaque éleveur cotise et une partie, c'est reversé par obligation à l'organisation interprofessionnelle. Donc ils ont des fonds qui arrivent chaque année, qui sont renouvelés chaque année. Et l'Interbev est aussi l'initiatrice du Centre d'information des viandes en 1986 et du groupement français, du groupement pour l'export français de viande dont on a parlé tout à l'heure, qui est prévu pour booster les exportations. Donc c'est des organisations plutôt bien faites pour soutenir la filière. L'Interbev a un énorme stand au Salon de l'agriculture. Donc l'Interbev a créé le Centre d'information des viandes. À sa création, c'était écrit dans les statuts que c'était conduire des actions de relations publiques afin d'améliorer l'image et la consommation des produits carnés. Ça a été toiletté, maintenant c'est conduire une mission d'information sur les produits et les filières. Enfin, dans les faits, le centre d'information des viandes, c'est vraiment... Ils ont plusieurs missions. Ils ont d'une part, quand vous voyez des publicités à la télévision, ça peut émaner du centre d'information des viandes. Il y a eu notamment la campagne de publicité Soyons fermes l'année dernière, mois de décembre, pas l'année dernière, mais l'année avant, puisque c'est en décembre. Ils ont 5 millions de budget annuel provenant de l'INAPOR et de l'Interbev qui sont mis ensemble. Au départ, c'était juste Interbev, et ça a été rejoint il y a 2 ans. Par l'INAPOR qui, comme son nom l'indique, est l'interprofession des éleveurs de bovins. Et ils ont donc 5 millions de budget et 10% qui viennent de fonds publics. Ils ont des programmes spécifiques pour les écoles et ils ont une veille permanente, par exemple pour le PNNS. Et aussi, quand Paul McCartney, justement en décembre 2019, a pris la parole en disant qu'il fallait au Parlement européen, il a pris la parole avec sa campagne Less Heat, Less Meat, donc moins de chaleur, c'est sur le gaz à effet de serre. Moins de chaleur, moins de viande, l'Interbev, le CIV, a fait paraître 57 pages de pub pour 400 000 euros de budget tout de suite après l'intervention de Paul McCartney au Parlement. Ils sont vraiment très puissants, ils ont une veille constante sur Internet, ils surveillent les articles de journaux, les commentaires, ils surveillent les forums, ils sont vraiment très au fait, ils ont des unités spécialisées là-dessus. Alors le programme dans les écoles, c'est un programme de nutrition. Donc vous avez plein de filles. Et vous avez un programme différencié pour les filles et pour les garçons. Bah oui, parce que les filles c'est pas pareil. Donc ils insistent par exemple sur les filles pour les apports en fer, et sur les garçons, c'est plutôt sur les protéines en force. Et c'est un programme différencié. Et c'est bien amené parce que, par exemple, sur les besoins en fer, ils vont pas dire des choses fausses, mais ils vont dire des choses incomplètes. Ils vont dire que notre organisme, par exemple, a besoin de fer. Dans la viande, vous avez beaucoup de fer. Ils vont s'abstenir de dire qu'ils ont trouvé aussi ailleurs.
Et ils s'abstiennent de dire que l'excès de fer est un danger.
Et ils s'abstiennent de dire que l'excès de fer est un danger. Voilà. Et ils conseillent, enfin vraiment c'est des conseils nutritionnels avec des animations dans les écoles, voilà, validées par, par le... Ah oui, il est validé par les diététiciens. Ils ont toutes des équipes qui travaillent là-dessus. Bah, en fait, ils ont une veille spéciale là-dessus, quoi. Donc, ils sont vraiment des pompiers s'ils voient qu'il y a un truc qui en doute. Des fois, sur les réponses à des articles de journaux, on se dit, mais qui est-ce qui est en train de réagir, je pense qu'il y en a qui sont... en tout cas, ils se tiennent au courant des différentes polémiques et tout ça, et ils interviennent très très rapidement, enfin suite à l'intervention de Paul Macron. Ça a été vraiment très rapide leur intervention par rapport à ça, par rapport aux articles qui sont parus dans la presse aussi, ils réagissent très rapidement.
Diffuser des commentaires.
Alors diffuser des commentaires, il y a eu notamment une polémique sur le cancer du côlon, je crois, et ils ont tout de suite derrière, ils ont réagi en disant mais non, en fait ça va, parce qu'en France on n'est vraiment pas de gros mangeurs de viande. On a vu tout à l'heure que vraiment on n'est pas de gros mangeurs de viande, mais encore les problèmes de premier. Voilà, sur les gaz à effet de serre aussi, ils sont en train de produire des contre-expertises en disant mais non, en fait c'est pas valide, à semer le gros doute par rapport aux études qui ont été faites, de façon à ce que ce truc soit complètement invalidé. Alors on va voir qu'il n'y a pas que le CIV qui réagit, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. J'aurais dû mettre l'autre après. Faire l'inverse. Il y a celui-ci aussi, le SNIV, SNCP, c'est les syndicats de l'industrie des viandes. Alors le SNIV, il est aussi dans l'Incarabelle, mais c'est un particulièrement actif, notamment au niveau de la veille et tout ça. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce qu'ils ont réagi très très fortement aux derniers reportages qui sont passés à la télévision, notamment sur Arte. C'était la biostech et les nouveaux végétariens. Et tout de suite après, ils ont fait un communiqué qui prévenait, justement, qui voulait donner un signal, à mon avis, fort par rapport aux médias, en disant qu'ils n'hésiteraient pas à aller en justice pour lutter contre les idées fausses sur la viande.
Juste pour rebondir là-dessus, à Saint-Nazaire, il y a une commune qui avait... vous savez, dans les écoles, les sources d'animation, le goût, machin, en l'occurrence, ils avaient fait une journée sans viande pour la planète. Et sachant qu'à côté de ça, ils achètent de la viande locale. Hein, ils veulent avoir la tête. Et donc, les éleveurs de Loire-Atlantique ont fait un gros pataquès, il y a plein de retombées dans la presse, énorme, et on retrouve exactement les mêmes arguments, menace d'aller en justice. Ils ont menacé les élus, ils ont des allus. Moi, j'ai rencontré les élus de Saint-Nazaire, mais ils avaient une pétoche. C'est même pas la peine, du coup, il n'y a plus de monnaie végé, il n'y a plus rien. Ils ont, ils ont une méga pétoche des agriculteurs, parce qu'ils savent qu'ils peuvent casser, qu'ils peuvent... Tout moi-même, il y a 20 ans de ça, ils avaient tout abattu, tous les arbres, etc. Ils peuvent aller très très loin, ils ont su les pêcheurs à la culture dans le temps de Bretagne, etc. Ils ont une méga pétoche. Et c'est toujours cet argument-là que nous, c'est qu'on va en justice.
Et alors ça s'est redoublé récemment avec la Sodexo. La Sodexo qui a fait, qui avait lancé un concours pour justement une thématique sur l'environnement, et les affiches qui avaient été retenues, c'était des affiches sur manger du veau, c'est équivalent à 200 km en voiture. Et c'est les mêmes, la FDSEA 44, donc les mêmes qui avaient réagi par rapport à Saint-Nazaire, qui sont montés au créneau, qui ont été manifestés devant la Sodexo, et la Sodexo, elle a reculé tout de suite en disant non, en fait, oui, vous avez raison, désolé d'avoir transmis des trucs erronés, etc. Alors que, enfin, c'est des chiffres qui ont
ramené les avis de la FAO.
Voilà, enfin, il y a la FAO, sur les empreintes d'eau, c'est le Water Footprint, qui est un organisme qui dépend quand même de l'ONU, enfin, voilà. Mais il y a vraiment une pétoche par rapport à ça. Bah, on l'a vu, nous, clairement, sur le reportage sur Arte, puisque la société Charal, par exemple, a porté plainte contre Arte, L214 et Sébastien. Okay. Diffamation, ouais. Dénigrement, diffamation. Je suis la même. Voilà. Et donc, je veux revenir sur le CNIEL aussi. Vous les connaissez tous, les trois produits laitiers qui sont vos amis pour la vie. C'est une émanation du CNIEL, le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière,
qui est très très puissant puisqu'il a réussi à imposer les 3 produits laitiers par jour. C'est quelque chose qui est bien ancré dans la société d'aujourd'hui. Et vraiment, ils ont fait un sacré boulot là-dessus. Alors, je trouvais intéressant cette page. Ils ont un stop au discours négatif. Le discours anti-lait a été prêt. Ça, c'est le bilan de l'année 2011. Le discours anti-lait a été freiné et la totalité négative des articles de presse a été réduite de 30% à 18%, tandis que l'attitude positive est passée de 34% à 60% entre 2008 et 2011. Donc ils savent mesurer même les efforts qu'ils font, ils savent les quantifier. Voilà, donc chez les diététiciennes, qui représentent la catégorie la plus touchée, la crédibilité des discours anti-lait a reculé significativement. Elles sont aujourd'hui moins nombreuses à y adhérer. Mauvais pour l'élevage. Pareil, ils avaient fait des communications sur le beurre. Le beurre avait mauvaise presse et ils ont fait des actions afin de réhabiliter le beurre. Si on regarde leur budget sur la pub, en fait, c'est 68% de leur budget. Et leur budget, c'est 37 millions d'euros par an. Non, le CNIEL, c'est aussi comme l'Interbev, c'est-à-dire qu'ils touchent les souches, chaque fois qu'il y a un litre de lait vendu, eux, ils touchent un truc dessus. Voilà. Et ils ont aussi des aides de l'État. Enfin, quand vous regardez les publicités, en bas, vous pouvez regarder, il y a les logos, et souvent, il y a la Commission européenne avec. Hein.
Et la région. C'est juste pour préciser que la pub, elle est dans les revues
médicales aussi.
Médicale. Je suis abonnée au quotidien des médecins, en plus, papier glacé, double encarte, c'est du gênant, et avec des messages à chaque fois différents, mais toujours liés aux avantages. Et je pense que les diététiciens vont nous faire parler.
Ah oui, on en trouve partout. On en trouve aussi chez les médecins.
Moi, je suis impressionné, je suis étonné par la puissance du globulé, comparé aux autres valeurs.
Ils sont plus puissants, ouais.
Enfin, par exemple, l'histoire du nombre de portions de lait, c'est même pas un truc traditionnel, c'est vraiment un truc où les gars, ils arrivent le fait, par exemple, qu'en France, c'est interdit d'assoler les soja, par exemple, enfin, en tout cas commercialement. C'est une réglementation européenne qu'on a obtenue, enfin, je pense que c'est eux qui l'ont obtenue pour vraiment pour ça.
Ouais, mais ils le disent qu'ils sont très puissants au sein de la file. La file, c'est la filière internationale laitière, en fait. Enfin, c'est pas exactement le nom du site, mais enfin, c'est une coalition internationale de filières laitières. Et ils se réjouissaient parce qu'ils avaient beaucoup de postes au sein de cette organisation. Ils avaient une majorité de postes au niveau des Français. Bon, on l'a vu tout à l'heure, l'industrie laitière française, c'est la deuxième européenne. Quoi. Donc, voilà.
Mais attends, quand tu parles de filière viande, est-ce que c'est une viande? Parce que souvent, c'est ce qu'ils font. Si tu rajoutes la production du poulet, la production du poisson, etc.
Oui, il y a plein de choses.
C'est la même que la viande.
En tout cas, dans le bouquin HLA, ce que j'avais retenu comme chiffre, c'était que la filière du lait mettait plus d'argent dans le marketing et la communication que la filière strictement viande, apparemment.
Oui, ça se retrouve sur le CIB qui a 5 millions de budget, alors que là, il y a 35 millions à la communication. On parle souvent des subventions qui sont accordées aux éleveurs. En fait, il y en a un paquet, mais c'est vraiment très disparate aussi. On l'a développé un petit peu sur le site viande.info, donc j'y viendrai pas précisément. Mais vous avez des subventions sur les produits qui sont couplés à la production. Elles disparaissent en 2010, à l'exception de la prime à la vache et les tentes, en fait elles sont transformées. Il y a les subventions d'exploitation, les paiements uniques, c'est issu de la PAC, mais c'est retransformé aussi, il y en a qui vont sortir de ça. C'est assez complexe, mais en fait il y a beaucoup de subventions qui arrivent. Et un éleveur laitier disait qu'une fois que les subventions, s'il n'y avait pas de subventions, il n'y aurait pas d'industrie laitière. Enfin, ça ne peut pas survivre sans. Et ils sont très inquiets à l'horizon 2015, parce qu'il va y avoir un gros changement. Et il pourrait ne pas passer ce cas.
Dans ça, vous êtes en France
2015. Ils n'auraient pas assez d'argent en fait pour continuer. Ils travailleraient à perte entre guillemets financière. Vous avez des primes à l'abattage des veaux entre 6 et 8 mois. Vous avez la prime à l'abattage des gros bovins, 130 euros. En fait, chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez avoir une prime. Hein? Si vous avez des vaches allaitantes, vous avez 150 euros par vache, plus 50 euros, jusqu'à 40 vaches, ou alors plus 25,85 euros si vous allez jusqu'à 40. Il y a eu récemment dans la presse une polémique sur l'aide à l'engraissement des jeunes bovins parce qu'ils voulaient priver que, enfin cette aide ne concernait que les troupeaux de plus de 50 jeunes bovins. Ils ont dit mais ça va encore aider que les gros. Ouais. Et voilà. Donc après, ça c'est des aides vraiment sur les animaux. Et après vous avez l'aide au stockage privé de beurre, c'est-à-dire que quand il y a trop de beurre produit ou trop de lait écrémé en poudre, ça a été fait sur d'autres produits, hein, c'est pas uniquement sur les filières laitières ou viande, il y a ce qu'ils appellent l'aide au stockage. C'est-à-dire qu'il y a une partie du beurre en fait, qui ne va pas sur le marché, qui est stocké et qui revient en compte-goutte, alors soit qui est donné à une banque alimentaire, s'ils n'arrivent pas à refourguer, soit qui revient à un autre moment sur le marché quand il y en a. Et donc ça maintient les prix, ça maintient les prix en fait. Parce que sinon il y a trop, et quand il y a trop, ben, du coup les prix baissent. Il y a la restitution sur l'exportation des produits laitiers, c'est tout des aides à l'exportation, et des restitutions sur le secteur viande bovine, c'est aussi des aides à l'exportation. Pourquoi le groupement d'export français, c'est très bon.
Voilà, vous avez pour chaque activité ces aides financières. Ah, il y a aussi les aides indirectes, parce que les aides indirectes, c'est par exemple l'eau que vous ne payez pas au même prix, vous, quand vous avez l'eau au robinet, vous la payez à un certain prix, quand vous êtes. Paysans, vous la payez moins cher. Donc, tout ce qui est l'eau que vous utilisez sur votre exploitation ou l'eau qui sert à arroser les plantes que vous faites pousser pour nourrir vos animaux, elle est moins chère. Enfin, voilà, vous êtes indirectement subventionné de ce côté-là.
Mais pareil avec le gasoil.
Ouais. Pareil avec le gasoil et pareil avec le fourrage. Il y a des primes sur le fourrage qui servent aussi de nouveau, qui reviennent encore à tout cher. Alors là, de nouveau, pour revenir sur le lait, sur...
Il y a les primes à l'emmerdement
aussi. Oui, merci. Pour revenir sur le lait, vous avez un programme lait scolaire qui est actuellement en cours, où il y a à peu près 0,25 centilitres de lait prévu par jour, de lait subventionné dans les écoles. C'est prévu pour... c'est parce que les enfants ne mangent encore pas assez de lait. Voilà, et donc pour ce truc-là, c'est 7 millions d'euros sur 3 ans qui vont aux pignettes. 7 millions. Voilà. Et dans le même temps, il y a donc eu le décret, j'en reviendrai pas dessus parce qu'il a déjà été discuté aux estivales, qui impose, qui favorise les filières viande et les filières laitières, on l'a vu très clairement dans ce décret. Donc c'est un décret qui a été publié fin de l'an dernier. Et qui impose une fréquence de produits laitiers et de viande dans les restaurations scolaires, et qui devait s'étendre à l'ensemble de la restauration collective, mais les décrets ne sont toujours pas parus pour l'instant. Je vais passer rapidement là-dessus. S'il y en a qui veulent plus d'informations, après, ce sera bon d'y aller, mais rappelez que cette industrie, elle tient, mais c'est absolument pas... Enfin, on peut trouver tous les besoins nutritionnels qu'on a, tous les bénéfices pour la santé, la prévention, le traitement de certaines maladies, on peut les avoir dans une alimentation 100% végétale. Et ne pas oublier, comme l'avait fait David avec les animaux emballages, que la plupart des nutriments qui nous sont apportés par la viande, notamment la B12, sont apportés de façon artificielle aux animaux, de façon à ce qu'il y en ait dans la viande. Donc, je passe rapidos, mais sur les protéines... la filière viande, mais comme tu en as parlé un petit peu ce matin aussi, il y a besoin de faire penser que les protéines, on va les trouver que dans la viande. Or, si on regarde, il y en a dans beaucoup d'autres choses. Et il y a moyen d'avoir ces protéines par jour sans utiliser du tout de viande.
Et il y a aussi un problème, c'est que la population se sent d'un excès de protéines.
Alors, moi j'avais lu, j'ai pas réussi à retrouver sur l'excès de protéines, que les personnes qui mangent de la viande, c'était à 70% au-dessus du niveau d'apport en protéines, et que les végétariens, on était à 30%.
Entre eux. Même les végétariens.
Ouais.
En tout cas, les recommandations de la France en matière de protéines, c'est 1 gramme par kilo gramme de poids corporel par jour. Alors que les recommandations de l'OMS sont à 0,8
gramme. D'accord, et là c'est 0,8 d'ANC, quoi. Ouais. Voilà.
Donc les protéines, ça c'est les plus souvent évoquées, le calcium. Donc le calcium, on en a parlé il n'y a pas longtemps, non? On en a parlé ici. Qui c'est qui a parlé du calcium?
La conférence de
l'année. Ouais, voilà. Donc je ne vais pas revenir dessus non plus. Et le fer aussi, pareil, où on dit bah, si tu ne manges pas de viande, tu n'auras pas de fer. Il y a beaucoup de sources nutritionnelles où on peut trouver du fer. Ah, et le fer, quand même souligner qu'il y a deux types de fer, le fer héminique et le fer non héminique. Et le fer héminique est mieux absorbé par l'organisme. La provenance du fer c'est partagé entre les deux. Donc le fer héminique est mieux absorbé par l'organisme. C'est 40% dans les viandes de poisson et 60% apporté par viande et poisson, c'est du non-héminique. Et les produits laitiers, c'est 100% du fer non-héminique. Mais ce n'est pas des qualités de fer de viande, c'est juste moins assimilable, mais suffit d'en manger un peu plus.
S'il y a pas une qualité de fer différente, parce que
oui, mais si manger un peu plus.
L'héminique est oxydant. Donc au contraire, celui qu'on nous présente comme le fer top héminique, en réalité, c'est celui qu'on a beaucoup plus de difficultés à enlever.
Et
donc il pose un problème, notamment sur le cancer du foie aussi.
Voilà. Voilà, sachant que suivant ce que vous mangez, vous allez favoriser l'absorption du fer ou au contraire l'inhiber. Mais ça, vous le retrouvez auprès de l'Association végétarienne de France, vous allez le trouver auprès de la Société végane, par exemple, aussi, ou auprès de la PSARES, qui est une association regroupant des professionnels de santé, que vous retrouvez sur Internet aussi. Bon, conclusion.
La question de la légitimité de l'exploitation des animaux est une nouvelle fois posée au travers de cet exemple, qui n'est qu'un exemple. Des êtres sentients sont esclaves jusque dans leur chair pour des produits parfaitement inutiles au sein d'une industrie où des vies se ruinent à ruiner d'autres vies. Connaître la façon dont sont traités les animaux, les filières et leur organisation peuvent permettre une lutte plus convaincante. Permettre. Voilà, c'est...